Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 112e épisode de Torréfaction. Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur Geekzone avec notre sélection de l'actu, une sélection que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
Oui, bonjour.
Tu manges des petits biscuits.
Ouais, si vous entendez des bruits bizarres, c'est moi qui un petit creux. On enregistre assez proche, enfin je veux dire, l'heure du dîner n'est pas très éloignée. Et
c'est
voilà.
Vrai.
On s'est dit, enfin moi et mon estomac, on a eu une réunion, on s'est dit si on mangeait un truc gras. Et voilà, donc je mange des gâteaux apéritifs. Vous savez tout.
Comme chaque semaine, on fait donc le tour de l'actu gaming, app culture, tech, et on va commencer par le gaming avec des news du côté de notre petit chouchou Dead Cells, mon cher Kaf, puisqu'ils ont annoncé un nouveau DLC.
Mais bah écoute, donnons-leur de l'argent, c'est tout ce que j'ai à dire.
Donc si je dis pas de bêtises, c'est le troisième DLC au total, et ça sera le premier DLC payant, qui est prévu donc pour janvier 2020. On vous en parle parce que l'annonce a été faite cette semaine, donc on s'est dit que c'était l'occasion de remettre une couche sur cet excellent, quoi, roguelike, on va dire ça comme ça?
Complètement, c'est un roguelike. Ils sont dans la catégorie tu meurs, tu recommences du début.
C'est ça.
Mais comme tu vas acquérir des objets, débloquer des trucs et des machins et des bidules, chaque partie finalement, c'est pas perdu. Tu meurs, mais tu auras avancé dans le jeu. Et vu la tonne de trucs à débloquer, si vous aimez le jeu, vous n'avez pas fini. Moi, je regarde des streams de temps en temps de mecs qui ont débloqué tout quasiment. Et je voudrais savoir combien d'heures ils ont passé sur le jeu. Ce qui est plutôt, c'est une bonne chose. C'est vraiment un rapport qualité-prix de fou. Et pour moi, ça reste vraiment un des meilleurs dans sa catégorie, en tout cas.
C'est des mecs qui ont aussi bien compris le principe du game as a service, en fait, puisqu'ils sont vraiment, ils suivent beaucoup le titre depuis sa sortie. Il est sorti il y a quoi, 2 ans maintenant, je crois?
En early access, ça.
Ouais. Donc, voilà. Et puis, il y a du contenu régulier. Il y a, comme on l'a dit, des DLC gratuits. Là, ça va être le premier DLC payant parce qu'ils se sont dit, il faut quand même qu'on bouffe un peu un moment aussi.
C'est ça.
Et donc, c'est développé à la base par des Bordelais, l'équipe de Motion Twin, qui là, pour le coup, a créé, en fait, une filiale, enfin, une deuxième équipe, en fait, qui s'est baptisée Evil Empire. C'est donc une émanation de la boîte principale, qui a été créée en septembre dernier, et qui va être chargée, en fait, de superviser le développement de Dead Cells. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont refilé le bébé à une deuxième entité? Parce qu'en fait, eux vont commencer à bosser sur d'autres titres dans l'univers de Dead Cells, un peu à la manière de ce qu'a fait Riot avec League of Legends, visiblement.
Oui, mais il y a un truc aussi qui est lié à la structure de la boîte, en fait.
D'accord, ok, je ne savais pas.
En fait, ils ont un système où il n'y a pas vraiment de salariés, si j'ai bien compris.
Okay.
Et tout le monde a des parts de la boîte. Donc, au bout d'un moment, quand tu veux continuer d'embaucher des gens pour faire plus de trucs, ça devient compliqué à gérer, j'imagine. Donc, ils ont peut-être dû aussi faire un spin-off là-dessus. Attention, c'est moi qui.
Mais tu fais bien de préciser.
J'ai pas d'infos plus précises là-dessus.
Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans ce premier DLC payant, baptisé donc de Bad Seed? Deux nouveaux niveaux et des nouveaux monstres à affronter. Alors, il y aura d'abord dit Arboretum, qui est une espèce de serre en fait relaxante et paisible, même si j'ai des doutes sur le côté relaxant et paisible.
Je crois pas.
Habité par un clan de champignons, il y aura The Swamp, qui est un environnement pour le coup assez nauséabond, habité par des arbres mutants, des hommes grenouilles à sarbacane et des suceurs de sang. Et puis donc The Heart of the Swamp, qui sera donc le domaine d'un nouveau boss, Mamantic, qui est inspiré donc visiblement des monstres de Starship Troopers.
J'aime beaucoup le nom en tout cas.
Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça coûtera pas très cher, parce que c'est annoncé à 5€. Et Motion Twin promet du coup qu'ils vont continuer à sortir du nouveau contenu. A priori, ils ont un planning confirmé de nouvelles sorties pour le jeu sur 2 ans. Donc on a encore le temps vraiment d'épuiser le jeu dans tous les sens. Et de son côté, Evil Empire donc va bosser sur d'autres titres, comme je le disais tout à l'heure, dans l'univers de Dead Cells.
Excellente nouvelle.
Exactement. Et puis donc, si ça vous intéresse, sachez aussi qu'il y a un AMA, Ask Me Anything, sur Reddit d'Evil Empire, où ils répondent à toutes les questions des fans. Je vous linkerai bien évidemment tout ça et un billet de nos amis de Rock Paper Shotgun qui parlent en long et en large du DLC qu'ils ont pu essayer eux, ce qui n'est pas notre cas, sniff. Donc voilà, je vous linkerai tout ça dans le billet qui accompagne ce podcast. On passe du côté des apps avec des news du côté de Plex, Plex qui se met donc au streaming.
Un truc de fou. Quelle surprise, dis donc. Non, je suis ironique, mais effectivement, donc la news complète, c'est Plex se met au streaming gratuit de manière mondiale, c'est-à-dire que c'est pas une offre comme on peut en voir passer de temps en temps qui est uniquement dédiée aux États-Unis au hasard. Et là, la ruse, c'est qu'en fait, il y a des pubs. Donc, en fait, ils ont récupéré un catalogue de pas mal de trucs pas trop chers, on va dire. Ils ont des deals qui ont été faits directement avec des boîtes de prod. Et le deal, c'est qu'en fait, ils vont mettre des pubs au début et pendant certains de ces contenus.
Ça m'embête, moi.
Y compris, c'est insupportable, mais bon, c'est gratuit. Et donc, ça concerne aussi les films, ce que je trouve particulièrement insupportable, et j'ai pas regardé de trucs à la télé depuis très longtemps, donc j'ai oublié, moi. Hein. Ouais. Avec mon oncle Bob VHS qui m'envoie ces trucs directement, du coup, je ne sais plus comment c'est les publicités au milieu du truc, donc voilà. Il faut savoir que c'est déjà en place, mais comme d'habitude chez Plex, vous aurez plus vite fait d'essayer de vous déloguer, de vous reloguer pour voir si ça apparaît dans la colonne à gauche sur votre interface tout en bas. Personnellement, j'ai encore eu des petits problèmes, c'est-à-dire que c'est apparu sur un de mes browsers, mais pas l'autre. Je ne sais absolument pas pourquoi, puisque les deux comptes sont complètement synchro. Surtout, ce que j'ai essayé de lire ne fonctionnait pas encore très bien, puisque au moment où je vous parle, j'ai eu pas mal de ratages avec des trucs qui ne voulaient pas du tout se lancer. Alors, je ne sais pas si c'est pas lié, par exemple, aux publicités, au hasard, tu vois. Genre, est-ce qu'ils ont eu un problème avec ça aussi? Donc, pour le moment, c'est pas ultra concluant, mais attention, c'est tout nouveau, ça vient d'être annoncé, puis comme dirait l'autre, c'est gratuit, donc remboursez les invitations. On va pas non plus être ultra, on va pas tirer sur l'ambulance de ce côté-là. Le catalogue n'est pas extraordinaire. En revanche, j'ai vu qu'il y avait Escape from New York, une petite perle de 1980 que vous connaissez tous, mais
John Carpenter. Hein.
Voilà, que je n'ai pas dans ma collection, donc je me suis dit, je vais commencer par ça. C'est là où je me suis rendu compte que ça ne marchait pas, donc forcément, j'étais triste. Je vous dirais pas qu'il y a des immanquables, parce que ce qu'ils mettent en avant, tu te dis, ça va être des trucs forts du catalogue, et il n'y a pas grand-chose qui m'a parlé. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs assez ridés, on va dire. Et je pense que c'est une question aussi de budget, c'est une question de démarrage. Mais faut se méfier, parce qu'ils sont sur un modèle qui n'a rien à voir avec la concurrence, et ils ont bien compris qu'eux, ils avaient peut-être une carte à jouer de ce côté-là. Et surtout, faut pas les sous-estimer, parce qu'ils sont toujours présents, par exemple, dans les télés, ils ont des clients vraiment partout, ils sont distribués de manière extrêmement large en termes de clients, contrairement à certains concurrents où on doit déjà faire le pas d'installation du soft pour avoir accès au service et payer en plus au démarrage. Donc peut-être qu'à terme, ils ont une vraie carte à jouer. Est-ce que la publicité sera un problème pour les gens normaux, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'oncle bien placé? On verra bien, ça sera la surprise. Mais en tout cas, l'interface étant ce qu'elle est, je pense qu'il y a moyen de convaincre quand même pas mal de monde, parce que quand je vois encore les clients, c'est toi que je regarde, Prime Video, voilà, il y a des trucs vraiment immondes, alors que ça devrait être parfait avec des gens derrière avec autant de pognon. Plex fait un boulot qui, même si y a des dents qui grincent quand ils changent l'interface, etc., ça reste mieux que pas mal de monde. Donc, je pense qu'ils ont une vraie carte à jouer. On verra ce que ça donne.
Et puis, en plus, le côté back catalogue peut être intéressant aussi. On sait qu'on a parfois du mal à trouver justement des vieux films. Tu parlais de...
C'était mon cas, ouais.
Voilà, d'Escape from New York, qui est, à ma connaissance, sur aucun service de streaming, en tout cas ici en Belgique. Je sais pas si ça doit être la même chose en France. Et il y a des gens que ça intéresse. En plus, si c'est gratuit, pouvoir mater des vieux films un soir où t'as rien à regarder, où tu te dis, tiens, je me remettrais bien ce vieux nanar, ça peut être intéressant. Donc, ils ont peut-être effectivement aussi une carte à jouer de ce côté-là.
Et puis, des nanars, il y en a un paquet en plus. Je vous ai linké
avec tout vidéo, comme on dit.
Exactement, je vous ai linké la page d'annonce du produit, du projet, du service, je ne sais plus comment on dit, je suis perdu. Franchement, vous allez voir, il y a des trucs, si vous les connaissez tous, vous êtes clairement plus cinéphiles que moi, ce qui au passage n'est pas très compliqué. Mais franchement, il y a des trucs où tu te dis, ça sentirait bien la bouse italienne de 1962.
C'est gratuit, je vais regarder.
Voilà. Alors attention, parce que moi, je peux lancer des trucs, j'ai une tolérance assez grande sur certains trucs. Écoutez, je pense qu'on pourra s'échanger sur le forum les trucs les plus pourris qu'on a été débusqués chez eux. Ça peut aussi être marrant.
Et on reste dans les apps avec la bonne nouvelle de la semaine. C'était une surprise, puisqu'on s'y attendait pas vraiment, mais ça y est, Reaper a sorti sa version 6.0. Alors Reaper, je rappelle très vite, pour ceux qui prendraient le train en marche, c'est quand même mon soft de prédilection pour monter les podcasts d'un côté, et puis pour faire du son aussi de l'autre. Ça reste, à mon sens, sur le marché, un des DAW, donc un Digital Audio Workstation, avec le rapport qualité-prix vraiment le plus intéressant. Il est vendu $60 pour la version discount, donc c'est la version que vous pouvez acheter en fait si vous ne gagnez pas plus de $20,000, je crois, avec vos productions sur une année.
On pourra pas l'avoir.
Voilà. Donc c'est exactement cette version-là que j'utilise. Il y a une version donc commerciale complète si vous êtes vraiment un pro et que vous utilisez ça tout le temps dans votre business, qui elle coûte $225. Donc ça reste quand même des tarifs très très abordables par rapport au prix du marché, par rapport à la concurrence. C'est un soft qui est assez ancien. Il a été créé en fait en 2005 par une société qui a été fondée elle en 2004 qui s'appelle Cocos, C-O-C-K-O-S, qui est une société qui a été fondée, rappelle-toi, par des anciens de Nullsoft, ceux qui avaient fait la bonne version de Binamp et qui se sont barrés au moment où ça a été repris par AOL et où ça a commencé à devenir de la merde. Hein. Et notamment donc Justin Frankel, qui est le leader de ce projet Reaper, et un monsieur qu'on connaît bien ici c'est chez Geekzone, Christophe Thibault alias Ron, qu'on avait reçu dans DLC, qui est plus maintenant chez Cocos, mais qui avait bossé sur les premières versions du soft. Donc c'est un Digital Audio Workstation, comme je le disais, donc c'est un soft qui vous permet de faire du son, monter du son, faire de la musique, des podcasts, tout ce que vous voulez, et voilà, il est présent sur le marché depuis plus d'une dizaine d'années, bientôt 15 ans, et il s'est positionné, comme je le disais dans la news que j'écris cette semaine sur le sujet, dans le peloton des meilleurs DAW du marché. Alors, les nouveautés du côté de la version 6.0, elles sont d'un côté cosmétiques, puisqu'il y a un nouveau thème graphique qui a été développé spécialement pour cette version, qui intègre non seulement des changements côté visuel, mais aussi côté fonctionnalité. Je rentre pas dans les détails, parce que sinon on en a pour des heures, je vous ai linké dans la news sur Reaper une petite vidéo qui explique un peu les nouveautés du côté de l'interface. C'est une interface qui est devenue assez dynamique, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous avez comme fenêtre ouverte, en fait, il y a des informations qui vont disparaître de certains endroits pour éviter la redondance. Donc, ça permet d'avoir une interface qui est beaucoup plus claire, beaucoup plus dégagée, en fait, qui permet d'avoir une meilleure lisibilité au niveau de l'interface. Ils ont refait un peu le design. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais sachez que pour ceux qui aimaient l'ancienne interface et qui ne kiffent pas la nouvelle, ben, vous pouvez repasser sur l'ancien thème sans aucun problème. Ils ont rajouté aussi un thème tweaker qui permet donc de customiser en fait l'apparence du soft. Avant c'était possible, mais il fallait rentrer dans des langages de script et tout, c'était pas toujours très très facile. Maintenant on peut le faire directement via le soft et de manière quand même assez complète. Et puis il y a plein d'autres nouveautés côté soft en tant que tel, avec notamment la possibilité maintenant d'intégrer des versions miniatures de certains plugins directement dans la table de mixage, ce qui est assez pratique. Enfin, je vous explique pas mon workflow, mais quand on bosse beaucoup sur le son, c'est pratique de pouvoir avoir un petit coup d'œil très rapide sans être obligé d'ouvrir la fenêtre complète de certains plugins. Possibilité aussi donc de gérer les enveloppes MIDI de manière dynamique. L'automatisation au niveau des enveloppes MIDI a été retravaillée, elle est beaucoup plus simple à utiliser, beaucoup plus puissante. Il y a un auto stretch aussi qui permet maintenant de recalibrer automatiquement vos projets, c'est-à-dire que si tu changes par exemple de tempo, il va tout recalibrer de manière dynamique et tu peux le faire plusieurs fois sur un morceau. Donc si tu as par exemple un morceau de musique qui change de tempo en cours de route, tout ce qui est auto stretch, donc je sais pas comment on dit en français,
on dit auto stretch,
voilà, on va dire auto stretch. Donc le fait de pouvoir en fait allonger tes boucles ou les raccourcir en fonction de la vitesse, ça se fait de manière beaucoup plus dynamique et beaucoup plus efficace. C'était un peu le côté sur lequel le soft pêchait jusqu'ici, et là vraiment ils sont arrivés à un niveau qui est assez impressionnant. Refonte complète du routing aussi, et ça c'est vraiment très très bien. Le routing avant dans Reaper c'était quand même un peu la prise de tête et c'était pas super clair. Là ils ont carrément mis en place une baie de brassage virtuelle, donc on peut câbler ces différentes pistes, ces différents plugins, même les instruments extérieurs et tout, de manière vraiment très très claire, avec une interface qui est vraiment ultra lisible. Il y a une compatibilité native désormais avec les écrans HDPI et Retina, une amélioration de la gestion des gros projets. Donc si vous travaillez souvent sur des gros projets avec plus de 200 pistes par exemple, vous allez voir que au niveau de l'interface ça va être beaucoup plus facile. Meilleure conversion des taux d'échantillonnage aussi, ça c'est très technique, mais disons que quand importe par exemple des fichiers qui sont en 48 kHz dans un projet en 44,1 kHz, la conversion n'était pas toujours top top. Maintenant ils ont vraiment affiné ça, donc c'est ultra propre. Et puis bien évidemment plein d'autres petites évolutions et autres corrections de bugs divers. La mise à jour est gratuite pour les utilisateurs qui étaient passés à la caisse pour la V5. Si vous aviez payé la dernière fois pour une V4, il va falloir repasser à la caisse, mais comme je disais tout à l'heure c'est vraiment super abordable, hein. $60 pour la version discount, ouais, 225 pour la version commerciale, et vous êtes peinard normalement, si je dis pas de bêtises, jusqu'à la version 7. Donc vous avez encore le temps d'avoir quelques mises à jour, et ils font des mises à jour très très régulières, c'est quasiment 2 ou 3 par mois,
mais pas les grosses. Donc, du coup vous ne repassez pas à la caisse non plus tous les 15 jours.
Voilà, exactement. Et pour ceux que ça intéresse, sachez que j'ai linké aussi dans la news sur Reaper 6 donc la liste complète des changements, et elle est assez impressionnante. Donc voilà, moi je suis content, Reaper 6.0 est sorti, et franchement c'était une version qu'on n'attendait pas vraiment, et qui au final apporte son lot de nouveautés assez intéressantes, et notamment au niveau de l'interface. C'est vrai que l'interface est de plus en plus classe, et c'était quand même un peu un des points faibles du soft jusqu'à il y a quelques versions, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va passer du côté de la culture avec une semaine importante au niveau des trailers, puisqu'il y a eu deux gros trailers qui sont sortis cette semaine. semaine. D'abord, le trailer de No Time to Die. Tu l'as vu ou pas?
Ouais, carrément.
Nouveau James Bond, donc, réalisé par Cary Fukunaga, qui était notamment le scénariste de Hit, le premier chapitre, et qui avait réalisé aussi toute la première saison de True Detective, qui est toujours producteur exécutif, d'ailleurs, sur l'ensemble de la série, et qui avait pris la relève de Danny Boyle, qui s'était barré en août 2018, suite aux fameuses Creative Differences, hein, comme on dit. Le film est co-scénarisé notamment par quelqu'un qu'on aime beaucoup sur Geekzone, Phoebe Waller-Bridge, qui a été recrutée en dernière minute pour faire un petit peu de polish sur le scénario, rajouter quelques petites touches d'humour, donc moi je suis très très curieux de voir ça. Et puis l'antagoniste sera incarné par Rami Malek, qu'on avait pu découvrir dans Mr. Robot, donc il va incarner un bad guy qui s'appelle Safin, dont on ne sait pas grand chose, si ce n'est qu'a priori il va bien donner du fil à retordre à notre ami James Bond. La sortie est prévue le 8 avril 2020 et on vous linkera bien évidemment le trailer. Et puis deuxième trailer, c'est celui de Black Widow, on l'attendait aussi, premier trailer donc du 24e film déjà du MCU, le Marvel Cinematic Universe. Alors on va pas vous en parler dans les détails ici, on aura l'occasion d'y revenir dans le prochain épisode des Clairvoyants qui devrait sortir normalement la semaine prochaine, où évidemment on va décortiquer tout ça avec mes amis Fox et Archeon. Juste rappeler donc que le film est réalisé par Kate Shortland, il est scénarisé par Jack Jeffers et Ned Benson, et on y retrouve donc bien évidemment Scarlett Johansson, mais aussi David Harbour, Florence Pugh et Rachel Weisz. Ça se déroule, pour ceux qui auraient loupé le train, entre Civil War et Infinity War, donc pour ceux qui ont vu Endgame et qui comprendraient pas très bien pourquoi est-ce qu'on a encore un film Black Widow, voilà pourquoi, ça se passe donc avant Infinity War, et la sortie est prévue le 1er mai 2020. Il faut savoir que c'est un film qui est en développement quand même depuis 2004, donc il était temps que ça aboutisse.
Ils ont dû galérer, ouais.
Ouais, ils ont dû galérer un petit peu, Black Widow, donc on vous linkera là aussi le trailer qui va bien. Et puis toi, tu voulais nous parler d'une série télé.
Ouais, une nouvelle petite série en 8 épisodes. Moi j'aime bien, tu vois, quand il n'y a pas grand chose en termes d'épisodes, parce que là je me dis, je verrai la fin.
C'est ça.
Je ne lâcherai pas en cours de route, si ça me plaît en tout cas. Qui est en fait une production de la BBC. Apparemment, ils ont sorti toute une nouvelle flopée de séries, un petit peu pour aller contrer, on va dire, les balais ténors du streaming qui viennent les faire chier. Ils voudraient que les gens continuent de regarder la BBC. En l'occurrence, c'est la BBC Two, là, dont on parle. Et la série s'appelle Giri Aji, qui veut dire en anglais Duty Shame. Donc, Giri Aji, c'est du japonais. Évidemment, avec mon accent, vous aviez pas deviné. Je vous comprends, hein, c'est pas de ma faute. Je vous dirais bien qui joue Inside, mais si vous êtes comme moi, ça va pas non plus vous parler plus que ça. S'il y a des gens un peu connus, mais pas tant que ça. Le truc qui est hyper intéressant dans cette série, c'est que bon, déjà le setup de base, sans rien vous spoiler, c'est un inspecteur de police japonais qui doit aller enquêter à Londres sur une histoire de meurtre, avec évidemment des embrouilles de yakuza et familiales liées à tout ça. Mais la réalisation est assez hallucinante. Elle est assez hallucinante, vous allez vous attendre à un truc de ouf, donc je vais descendre d'un cran tout de suite.
<C'est ça.
rire> Mais il y a des choses que je veux pas vous spoiler, même en termes de réalisation, qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait dans une série télé, tout bêtement. Mm-hmm. Je vous parle pas juste de la mise en scène, des flashbacks, etc. Mais ils ont eu quelques touches de génie entre guillemets pour mettre en avant vraiment l'ambiance qu'ils ont voulu insuffler à la série, et on est vraiment sur ce côté japonais à Paris, un peu calme, c'est assez lent. T'as des phases assez lentes, les personnages sont bien posés, ça m'a l'air très bien écrit. J'ai vu que 2 épisodes, il y en a 8 de prévus, je répète, donc pour l'instant, peut-être qu'on s'insultera mutuellement, moi et moi-même, à la fin des 8 épisodes, en se disant pourquoi j'ai recommandé ce truc-là, c'était tout naze. Il y a une prise de risque, je ne vous le cache pas, mais vu la gueule des deux premiers que j'ai regardés, je suis franchement emballé, et pas grand monde en a parlé, ou pas grand monde en l'a mis en avant.
Non, moi j'en avais pas entendu parler du tout, donc
voilà,
moi c'est sur Netflix a priori, c'est ça?
Alors bientôt, j'ai pas la date, mais okay. Pour le moment c'est pas le cas, j'ai l'impression qu'ils ils l'ont gardé pour la BBC Two chez eux.
Ouais, ils vont attendre que la série se termine, c'est comme
ouais. Plein de trucs.
Ouais. Je revenais plus sur la série de notre ami Phoebe, mais
même sur les animés, il y a pas mal de séries qui sont en diffusion simulcast Japon, truc de streaming de dessins animés standard, on va dire, Crunchyroll et compagnie, et qui arrivent sur Netflix parce que il y a eu une aide, financement, blablabla, et qui arrive quand tout est complet en fait, ou quand
d'accord.
Une saison est complète, ou des fois ils coupent une saison en deux, etc. Donc là, a priori, ça va être le cas, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un oncle Bob VHS comme d'habitude, mais si vous voulez la regarder en même temps que c'est dispo et que ça sort, effectivement, il va falloir vous arranger autrement, mais en tout cas, mettez-le de côté, c'est déjà dispo dans l'interface de Netflix, qui peut vous le rappeler gentiment quand ça sera en ligne, et je pense que ça devrait plaire au public de Geekzone, c'est en tout cas, voilà, moi, rien que visuellement, je suis comblé pour l'instant et j'ai hâte de voir où tout ça va aller.
Écoute, je vais ajouter ça à ma liste sans plus attendre. Et puis, je voulais vous parler très très vite de l'arrivée de la saison 3 de The Marvelous Mrs. Maisel.
Yes.
Ça sort ce week-end sur Amazon Prime. Bon, on va pas vous refaire le topo, on en a déjà parlé plusieurs fois sur Geekzone et dans Torréfaction. Excellente série télé, donc écrite par Amy Sherman-Palladino sur une nana qui fait du stand-up dans les années 50, avec Rachel Brosnahan. T'as vu, j'ai réussi à le dire sans me planter.
Ouais, c'est bienvenu. Franchement, je suis admiratif. Je suis fan, mais j'ai toujours pas vu la saison 2, donc ne spoilez pas.
Je ne spoil pas, mais du coup, tu te passeras du récap que je vais vous linker, qui récapitule donc les faits importants des deux premières saisons, et puis je vous linkerai aussi le trailer donc de cette saison 3 qui sort ce week-end. Vous savez déjà ce que vous faites ce week-end, du coup. Et puis on va passer toujours dans la culture à autre chose.
Ouais, on a plein de culture en ce moment, dis-donc. Tu sens qu'on est fatigué, on joue moins, on regarde plus de trucs posés dans le canapé.
C'est ça, on est
c'est
plus
moche.
Passif en fait.
Ouais, c'est la fin de l'année, les gars. Excusez-nous, hein, on fera du pampan boum boum bientôt. Oui, et là je vais vous parler d'un truc qui me tient à cœur, parce qu'encore pas assez de monde connaît ce génie du stand-up qui est Daniel Sloss, qui est donc écossais, qui est un petit jeune entre guillemets pour nous, en tout cas vieux messieurs que nous sommes, qui est né en 1990. Il a donc 29 ans actuellement, vient de les avoir. Il est du 11 septembre, dis-donc, donc son anniversaire, tu vois, il peut pas l'oublier, lui. Il fait des vannes d'ailleurs, hein, sur ce genre de truc, parce que tu vois, lui, il en a vraiment rien à foutre de rien, mais c'est toujours extrêmement bien fait. Son dernier spectacle, il l'a pas fait sur Netflix. Il y a deux Netflix spéciales dispo que je vous encourage à aller regarder dans l'ordre. Ne vous cramez pas les cartouches, sinon il y a des sketchs qui marchent un petit peu moins bien, même s'il se renvoie pas autant la balle qu'une autre nana spécialiste des Netflix specials, qui est Ali Wong, que je vous recommande aussi au hasard. Voilà, paf, comme ça, autre recommandation ninja. Là il avait signé avec HBO, donc il a fait un deal avec eux. C'est paru du coup uniquement sur ce service aux États-Unis. Chez nous c'est encore pas dispo de manière évidente, donc bah voilà, il faut encore appeler Bob, je suis désolé, hein, cette blague est pénible, hein, mais voilà, c'est comme ça que ça marche en ce moment, les services de streaming, il y a trop de trucs partout, c'est compliqué. Et ce dernier spectacle, donc, qui s'appelle X, il est architecturé comme les autres, mais sauf que dans les autres cas, on s'y attendait moins, puisque c'était le début. C'est-à-dire que bah, il fait des blagues sur des trucs assez lourds. Enfin, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'artistes du genre qui sont capables de faire rire avec certains des sujets qu'il manipule. Le mec, il aime bien jongler avec des bâtons enflammés quand même. Hein. Là, il fait des vannes sur les enfants et la sexualité dès le départ. Tu te dis, oh putain, où est-ce qu'il va ? Comment il va gérer ça ? Et il le gère impeccablement. Et il finit, comme il le dit lui-même, par un TED Talk. Alors, c'est évidemment, c'est un TED Talk slossien, hein, donc, et c'est, il fait mouche. Alors, je vais pas non plus spoiler les sujets, mais c'est hyper bien vu à chaque fois. En revanche, attention au deuxième spectacle, si je dis pas de bêtises, c'est le deuxième ou le premier, j'ai un vieux doute, mais en tout cas, il y en a un où il finit par un TED Talk entre guillemets sur les relations de couple. Mmh. Et ce petit enfoiré compte les divorces et les séparations qu'il a provoquées après son spectacle. vous pouvez regarder le compteur sur son compte Twitter, je crois. C'est dans sa bio. Le mec est là, genre, voilà, j'ai sauvé tant de vies, c'est beau. Donc voilà, vous avez un peu l'esprit du bonhomme.
Ouais.
Et son nouveau spectacle est vraiment impressionnant. Je trouve qu'il ne fait que se bonifier. J'ai hâte de voir comment il va évoluer, s'il va réussir à garder ce niveau d'écriture. Parce qu'évidemment, il fait tout en plus. Donc c'est assez impressionnant. Attention, et en plus, si vous allez sur YouTube, vous verrez des trucs où il est tout jeune, parce qu'en fait, il fait rire les gens autour de lui de manière avec des trucs écrits, préparés, etc. depuis qu'il a 14 ans.
D'accord.
Donc tu vois,
prodige.
Voilà, le mec était vraiment dedans au départ et il explique finalement pourquoi et d'où ça vient dans le premier spectacle. Ou c'est pareil, si vous avez perdu quelqu'un récemment, c'est peut-être pas la peine de le regarder tout de suite, quoi. C'est voilà, le mec joue vraiment avec des thématiques qui sont loin des trucs clichés habituels et safe que certains autres comiques vont ne pas approcher, parce que c'est juste trop compliqué d'écrire et de parler sur ces sujets. Donc voilà, je vous encourage à aller voir ça et activer les sous-titres, parce que bah oui, je le répète, hein, il est écossais, et même quand on parle bien anglais, parfois c'est compliqué.
Daniel Sloss, donc. Et puis, je fais une recommandation Ninja très vite aussi. Si vous avez Netflix, matez le stand-up de Seth Meyers qui s'appelle Lobby Baby. C'est vraiment très, très drôle et j'aime beaucoup Seth Meyers. Donc, voilà, je voulais le recommander en passant. On passe du côté de la tech avec des news de je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Jabra Elite 85H.
Ouais, parce que tu te rappelles, la semaine dernière, c'était Black Friday.
Oh oui.
Tu te rappelles?
C'est fini maintenant, ça y est, c'est fini officiellement.
Et justement, j'en ai profité pour craquer et je me suis dit, tiens, ce truc-là, j'en ai pas trop entendu parler. Voilà, on va en mettre une couche. Donc, qu'est-ce que c'est le Jabra Elite 85H? Bravo Jabra, marque danoise, mais qui a encore des progrès à faire sur les noms des produits. Ouais. C'est un casque sans fil à réduction de bruit qui vient concurrencer les grosses références du secteur, parce qu'évidemment, il y a du lourd sur le marché, surtout du côté de chez Bose, du côté de chez Sony, et surtout que là, on parle des produits qui sont des trucs lancés à 300€. Donc on parle pas des petits casques cheapos, on est dans la cour des grands, les casques qu'on est censé acheter quand on est dans l'avion sans arrêt, qu'on en a marre des bruits des moteurs, ce genre de choses. Jabra, ils ont fait un produit qui est assez surprenant, dans le sens où si vous regardez toutes les reviews qu'il y a sur le net, elles disent toutes la même chose, et maintenant que je l'ai acheté avec mon argent... Mais pendant le Black Friday, car vous allez comprendre, une petite ruse. J'avais fait une review dans le genre aussi sur mon casque Sony où je vous avais dit il est vachement bien mais en promo. Et ben là c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que là je l'ai acheté 150€ avec une petite réduc en plus du Black Friday. On était sur un prix de lancement à 299 l'été dernier. Est-ce qu'il vaut 299€? Non. Est-ce qu'il vaut les 249€ en promo? Bah déjà plus. Mais si vous la trouvez aux alentours de 200€, c'est-à-dire 100€ de moins que la concurrence immédiate classique, on va dire, là on commence à discuter. Et pourquoi il est un petit peu dénigré là-dessus? C'est pas du tout sur ses qualités. Il est ultra confortable. Il est livré avec une pochette avec tous les câbles qui vont bien, l'adaptateur avion et tout, sauf qu'ils l'ont oublié dans ma pochette, mais j'en mourrai pas, j'en ai plein. Mais il y a un truc effectivement où il est pris en défaut par rapport au ténor du genre, et particulièrement le dernier Sony qui a un nom pareil, c'est le 1000 machin MX3, j'ai plus de nom sous les yeux, excusez-moi d'être un amateur du podcast, mais tout le monde sait de quoi je parle. Quand vous tapez Sony 300€, vous allez le trouver, vous inquiétez pas. La problématique, c'est la réduction de bruit. En fait, la qualité de la réduction de bruit est moindre que sur le Sony, elle est moindre que sur les Bose haut de gamme, ça c'est un truc qui peut être un facteur qui va le disqualifier chez certains qui recherchent vraiment ce truc précis. Alors attention, quand je dis moins bien, c'est-à-dire que le Sony, dont la référence complète est WH-1000XM3, merci Sony, vous voyez, je suis multitâche le gars, on est vraiment sur un truc qui fonctionne partout, y compris sur les bruits très sourds, et donc les moteurs d'avion, les métros, etc. Moi, j'ai pas eu de problème. En fait, dans le métro, ça marche très bien. La réduction de bruit est quand même hyper efficace. Maintenant, effectivement, elle est moins efficace que sur un Sony. Et en revanche, la qualité du son est là. Il n'y a pas de problème. L'interface est pas aussi sexy que sur le Sony. C'est-à-dire que sur le Sony, tu sais, c'est les oreillettes tactiles où tu slides en fait sur le côté. Là, c'est des boutons, donc c'est moins sexy. Mais bon, ça marche mieux. Surtout que le Sony a des problèmes dans le froid. Apparemment, il y a eu un patch. Donc, je ne sais pas où ils en sont de cette histoire. Mais quand il faisait très froid, en fait, la surface tactile est déconnée. Donc, c'est moins pratique, du coup. C'est des vieux boutons, c'est fait par une boîte danoise. Enfin, quand je dis c'est des vieux boutons, c'est des trucs intégrés dans le design du casque. Hein. On n'est pas des animaux classiques. Voilà, mais on est dans le classique et ça marche très bien. Et surtout, il a un avantage de fou par rapport au Sony, c'est qu'il se connecte automatiquement bien plus rapidement et à deux appareils simultanément, ce qui n'est pas le cas du Sony. Mmh. Ce qui, vu la différence de prix, peut être un argument en faveur du Jabra. Par exemple, moi, il est connecté en permanence avec ma tablette et mon téléphone. J'ai pas à switcher entre les deux au moment où je le mets sur mes oreilles. Il n'y a pas de bouton on-off, c'est quand tu tournes les oreillettes, en fait, il s'allume directement. Et on est sur un produit moderne, c'est-à-dire avec plus de 30 heures d'autonomie avec une seule charge. Ce qui fait bien plaisir parce que j'ai encore un souvenir ému de mon Parrot Zig 2 qui a terminé à la poubelle et qui méritait pas beaucoup mieux avec ses 4 heures d'autonomie, je crois. c'était le début, c'était difficile. Et j'avais payé ça une blinde grâce à un pote, mais c'était toujours trop cher, même avec sa réduc. Surtout pour ce que c'était. était. Bref, voilà, ce produit est moins connu parce que Jabra, c'est pas une marque à l'aura des autres. Bon, bah voilà, c'est du designed au Danemark et fabriqué en Chine, comme tout le monde. Il y a plein de modèles différents au niveau de la finition. Il y a des promos sur certains modèles, par exemple le bleu. Il y a une espèce de bleu marine assez sympa en fait, qui est souvent plus en promo que le noir ou le titane, etc. Voilà, ça change rien au produit. C'est vraiment une histoire de cosmétique. Donc voilà, maintenant vous savez que ça existe et vous savez que ça peut potentiellement être intéressant pour vous.
Et c'est la fin de ce 112e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu. Nous, on va essayer d'aller se reposer un peu ce week-end, parce que vous l'avez peut-être entendu, on est un petit peu fatigué là.
Non, mais vous n'avez pas entendu la moitié de nos savonnages, grâce à Reaper 6.
Exactement.
Et ça, c'est et peut-être un peu le talent d'un monsieur
un petit peu belge.
Ou un peu. Parce que je crois que le soft, il fait tout seul en vrai. C'est comme ça que ça marche, l'informatique.
C'est ça. Ça mouline tout seul, tu t'appuies sur play, et puis c'est parti.
Bien ce qui me semblait, c'est ce que mes parents m'avaient expliqué.
Allez, à la semaine prochaine, bisous, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités, le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés
et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.